écouter la seconde partie de l'enregistrement de la conférence « D'où venons-nous et où allons-nous » présidée par le directeur du CEDD, Edwin Zakaï. Les intervenants de cette deuxième séquence, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Yvan Meyer, prendra la parole, suivi de Evelyn Heutebroek, députée écolo au Parlement bruxellois, mais d'abord, Amy Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS et co-auteur du livre « Gouverner le climat, quel futur possible ?». Son intervention succède à celle de Stéphane Aykout, qui nous présentait une analyse critique des précédentes conférences des partis. Amy Dahan poursuit l'analyse et nous parle du post-Copenhague après 2009.
Nous sommes assez critiques, c'est le moindre des mots. Alors quand même, est-ce qu'il y a quelques signes d'espoir ? Pour poursuivre un petit peu l'aperçu historique que Stéphane a entamé, clairement, Copenhague en 2009, la plupart d'entre vous devez quand même déjà, même si vous êtes très jeunes, suivre un petit peu, on vous rappelait au moins de ça, bah, ça a été quand même un échec retentissant. On avait présenté ça comme le moment où la planète devait être sauvée, bah, alors que tous les chefs d'État étaient là. Bon, c'était la première année où les États-Unis revenaient, puisque Obama, c'était la première année où il était président de plein exercice, etc. Bon. Et finalement, il ne s'est rien passé. Et ça a été quand même quelque chose de terrible. Mais c'était quoi, cette conférence de Copenhague ? C'était, d'une certaine façon, la consécration du nouvel ordre politique mondial avec la Chine et les États-Unis comme les deux puissances hégémoniques du monde, avec un certain nombre de, évidemment, juste après la crise économique et financière, qui se tiennent un peu par la barbichette. Et voilà. Et donc, l'Europe a été très provincialisée dans cette COP. Elle était la puissance, enfin le pays, l'Union européenne. Elle menait les négociations depuis le protocole de Kyoto. Elle était la bonne élève du processus, etc. Elle a été complètement mise de côté. Ça a été négocié dans les hôtels de Copenhague entre Obama et le Premier ministre chinois, avec les autres basiques, quoi, les trois autres grands émergents qui étaient. Et puis voilà. Et la seule chose qui avait été retenue, c'est qu'on allait changer de méthode, qu'on se mettait d'accord pour quand même essayer de ne pas dépasser le seuil dangereux des 2 degrés au 21e siècle. Au 21e siècle. Donc, c'est pas très précis tout ça. Donc là, vraiment, on peut dire que le processus onusien a failli exploser. Et s'il n'a pas explosé, c'est parce qu'à Cancun, l'année d'après, les pays en développement, en particulier, il faut le dire, les pays en développement pauvres et les moins avancés, ce qu'on appelle les moins avancés, la coalition des AOSIS, les petites îles qui risquent d'être submergées, etc., sont extrêmement attachés à ce processus et ils ont tout fait pour le sauver, avec l'aide de la diplomatie mexicaine qui était la puissance haute de cette conférence. Bon, il a été sauvé, mais on n'a pas sauvé le climat, hein, c'est clair. Bon, donc les choses vont lentement. À Durban, en 2011, l'Europe a essayé de remonter la pente, courageusement d'ailleurs, et finalement, il est arrivé, on n'entre pas dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, qu'à la faveur du fait que les États-Unis et la Chine sont restés un peu en réserve, ils ne voulaient pas trop bloquer les choses, etc. Et on s'est mis d'accord sur quoi ? Sur cette marche de 4 ans jusqu'à Paris, ce qui a été ensuite choisi comme Paris, c'est-à-dire un accord. L'idée d'un accord, le projet d'un accord avec tous les pays. Donc c'est vrai que c'est ça qui est nouveau. Cette réunion de la COP de Paris, c'est la première fois que on dit universel. Ça veut dire vraiment que c'est pas simplement les pays riches ou les pays du Nord développés industriellement, etc., qui auront à signer des engagements ou à participer. Tous les autres pays le font, et donc effectivement, c'est les 161, tu as dit 159, mais depuis hier, on est à 161 pays qui ont donné leurs engagements, et donc effectivement, on est à 91% des émissions, etc. Mais attention, et c'est clair, c'est une approche cette fois bottom-up, donc qui part par le bas, ce n'est plus une approche partage du fardeau. Hein, on a changé, on a appelé ça partage des opportunités, l'éco-bénéfice, c'est-à-dire il faut faire des politiques climatiques, mais qui puissent servir à autre chose aussi, qui puissent être utiles à autre chose, au développement, à résoudre les problèmes de pauvreté dans les pays pauvres, qui puissent véritablement être bénéficiaires pour plusieurs objectifs. Donc tout ça, c'est la démarche. Hein, général. Donc l'approche a changé, le contexte géopolitique effectivement a changé. Je crois que Stéphane l'a déjà dit. On est dans le deuxième mandat Obama. Il est certain que les États-Unis font plus d'efforts cette fois qu'il y a quelques années. La Chine a clairement aussi décidé et toute l'approche de la COP de Paris a été initiée par la déclaration d'accord. En novembre dernier, Chine, États-Unis, qui ont décidé de coopérer, etc. Bon, et de dire dès novembre 2014 quelles étaient leurs promesses d'engagement, qui ne sont pas suffisantes, mais qui sont quand même plus élevées, nettement plus élevées qu'elles étaient les fois précédentes. En particulier, donc la Chine a donné un pic en 2030. On ne connaît pas sa hauteur, mais elle donne ce pic à 2030. D'autre part, le contexte économique, ça c'est la bonne nouvelle, effectivement, mais on n'en parle pas dans les négociations. Ça c'est sûr que ce qu'a dit Stéphane est très important. Ces négociations ne portent pas sur ce qu'il faut. Elles portent sur autre chose, mais elles ne portent pas sur ce qu'il faut. On discute d'objectifs abstraits très lointains, de courbes. Donc je vais dire quelque chose tout à l'heure sur les 2 degrés. Bon, c'est ça, c'est un point majeur, cette discussion sur les 2 degrés. Mais en fait, clairement, comment est-ce qu'on va faire pour réduire les émissions, c'est-à-dire les questions matérielles, concrètes, de production, de déplacement des bouquets énergétiques des pays, etc. Ça ne fait pas partie de la négociation. Pourquoi ? Mais parce qu'on est dans un cadre où chaque pays est souverain. Ça, on l'a entendu parler de la Belgique, donc on voit bien comme c'est important. Chaque pays est souverain, et donc voilà, il fait ce qu'il veut. Il donne un chiffre, et ensuite, bon, voilà, on va voir comment il va le faire. Alors, la question, et c'est pour ça que ce qu'a dit Marquignon est aussi très très important. C'est-à-dire que cette année, les engagements des pays, les INDC, ce qu'on appelle, qui sont des contributions intentionnelles, c'est-à-dire des intentions de contribution. C'est pas du tout des engagements. Ça, c'est pas dans la partie du texte contraignante. C'est dans des annexes. Et ce n'est pas négocié. Ce n'est pas négocié. Chacun dit ça en toute souveraineté. Un des enjeux très importants de la négociation, c'est justement, est-ce qu'il y aura, et vous en avez parlé tous les deux, est-ce qu'il y aura des clauses de transparence et d'examen de ces engagements ? Ça, pour moi, c'est la ligne rouge de la COP de Paris. S'il n'y a pas ça, c'est rien du tout. C'est le schisme du réel qui continue pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Parce que les climatologues nous disent, et donc là, personne ne l'a dit, mais je le rappelle, que le budget carbone de l'atmosphère, si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, il est d'une quantité de gigatonnes de carbone égale à 20 années comme l'année 2014. 20 années égale à la hauteur de l'année 2014. Donc non seulement on continue à augmenter, mais l'année 2014, 20 années, c'est donc pas très longtemps. Hein. Et surtout pour vous qui êtes très jeunes, c'est vraiment dans pas longtemps, c'est 2035. Et comme on ne peut pas imaginer qu'en 2035 on soit comme en 2014 et en 2036 à zéro, évidemment ce serait complètement ridicule de voir. Il faut bien qu'on commence à décroître et qu'on décroître vite maintenant, sinon toute cette barre des 2 degrés, c'est dû, excusez-moi d'utiliser le mot, pipeau, c'est du pipeau. Et donc aujourd'hui, les calculs qui nous disent qu'on est à 2,8 degrés, 2,9 degrés dans les engagements, etc., je n'y crois pas une seconde. Parce que, pourquoi ? Parce que chaque pays a eu ses méthodes de calcul. Pour les uns, c'est par rapport à 90. Pour les autres, c'est par rapport à 2005. Pour les uns, ils donnent un pic, mais ils ne disent pas à quelle hauteur. Pour certains, c'est l'intensité énergétique. On va baisser en intensité énergétique. C'est-à-dire, on va... Voilà. Donc, tout ça, c'est... Donc, il est absolument impératif qu'il y ait dans l'accord une clause qui dise que des experts vont évaluer toutes ces promesses, les traduire, les mettre dans une métrique commune, savoir tous les, disons, 5 ans, d'accord, ou tous les ans, ou tous les 5 ans, quel est le chemin parcouru, combien on a émis, combien il reste, si on veut ne pas dépasser... Je ne sais pas si ça sera 2 ou plus que 2, malheureusement. Mais bon, voilà. Et donc, par rapport à ça, les pays en développement pauvres disent 1,5 degré. Bon, mais là aussi, c'est 1,5 degré, c'est une posture idéologique. C'est-à-dire que c'est... Bon, ils s'accrochent parce qu'ils ont raison. Et d'une certaine façon, ils sont victimes de ce changement climatique qu'ils n'ont pas provoqué. Ils vont en subir les dommages. Et donc, c'est une façon de négocier de l'argent contre autre chose. Mais 1,5 degré, de toute façon, on n'y arrivera jamais. On est déjà à presque 1 degré. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, on a une nouvelle approche, plus bottom-up. Bon, il y a quelques... Les énergies renouvelables ont explosé. Elles se sont énormément développées. La Chine a beaucoup investi dedans. Ça lui convient industriellement, etc. Ben, c'est très bien, tant mieux. Même si ça a causé un certain nombre de difficultés à l'économie allemande ou à d'autres économies. Mais là, on ne rentre pas dans le détail. En tout cas, il y a des potentialités technologique très important dans les énergies renouvelables. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que là j'avance parce que je sens que je parle trop, mais voilà, ce que je crois très important, c'est qu'il faut se départir d'un certain nombre d'illusions. Donc, comme je le disais, ces illusions pour les années à venir, c'est-à-dire que la transformation qui est devant nous, si on veut véritablement relever le défi climatique, est énorme. C'est une transformation qui ne peut pas se faire en catimini sans qu'on dise qu'elle est énorme et que tout le monde en ait pris quelque part conscience. Et ça ne peut pas non plus se faire de façon invisible. On a cru au moment du protocole de Kyoto qu'il y aurait un marché carbone avec une péréquation comme ça du prix du carbone qui permettrait de, sans douleur, de faire toutes les transformations. Voilà. Et puis le marché ferait une péréquation des efforts des uns et des autres. Mais ça n'a pas marché du tout, ça n'a pas généré d'argent, et c'est un échec total. La grammaire du marché sur les permis d'émission, qui avait d'ailleurs été imposée par les États-Unis, alors qu'à l'époque, l'Europe voulait des taxes, c'est un échec. Aujourd'hui, dans un deuxième point extrêmement difficile pour la conférence de Paris, c'est le problème du financement. C'est le problème du financement. Mais le problème des financements, c'est quoi ? Bon, on a dit, c'est les 100 milliards. Bien sûr, on a promis 100 milliards à Copenhague à partir de 2020. Pour faire quoi ? Pour de l'adaptation pour les pays les plus pauvres, les plus vulnérables, etc. Mais aussi, d'une certaine façon, pour la décarbonisation de l'économie ou pour engager des pays sur des chemins de développement bas carbone. Et ça, tous les économistes, mais tout le monde, sait très bien, les ingénieurs et tout ça, qu'il faut beaucoup plus que 100 milliards. Il faudra beaucoup plus que 100 milliards. Donc, c'est pour ça que je crois que vraiment, la COP de Paris, si elle aboutit à quelque chose, avec une clause de vérification, avec quelques points très importants qui sont accrochés, ça ne peut que éventuellement nous mettre sur des rails qui seront plus favorables et permettre que année après année ou 3 ans après année, 3 ans, etc., on augmente nos ambitions. Parce que le contraignant et ambitieux, pour le moment, c'est incompatible. Ça ne marche pas ensemble. Tous les engagements, on dit contraignants, vous savez très bien qu'il n'y a pas de droit international contraignant pour le moment, de l'environnement,
de l'environnement. Alors on va essayer d'élaborer des choses, il y a des projets, il y a des choses, mais pour le moment ça n'existe pas. Le Canada s'est retiré de Kyoto, il n'a pas rempli ses engagements, il ne s'est rien passé. Pour le moment on ne fait pas la guerre aux gens qui ne remplissent pas leurs engagements d'environnement, hein, évidemment. Et donc... Voà, donc le côté contraignant, c'est quelque chose de moral. Si les sociétés civiles sont extrêmement vigilantes, extrêmement actives, si leur niveau de conscience s'élève, bien sûr, la question contraignante, ne pas respecter ses engagements, etc., ça sera de plus en plus difficile. Et quant aux ambitions, nous avons remarqué et écrit à plusieurs reprises que certains pays vont d'une certaine façon plus loin dans leur politique intérieure domestique ces pays acceptent de signer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas s'engager sur des choses dans 20 ans ou dans 30 ans qu'ils ne connaissent, dans des contextes économiques ou de compétition qu'ils ne connaissent pas. Et on voit bien que la Chine, depuis 6-7 ans, elle a engagé un plan climat qui est assez sérieux. Il y a eu des choses. Mais elle ne voulait pas signer. Elle était absolument dans la gouvernance globale, absolument opposée à tout effort. Elle a changé depuis un an. Mais donc, et pourtant, elle a fait quand même des choses. Et c'est vrai pour plusieurs autres pays qui sont plus avancés dans leur politique intérieure que leur position internationale pour diverses raisons.
Alors, ami.
Oui, je finis. Voilà. Donc, nous disons que, bon, il faut, pour cette COP21, évidemment, c'est très important qu'il y ait quelque chose qui tienne la route, qui puisse galvaniser les énergies. Mais il faut bien penser que tout ce problème ne va pas se résoudre uniquement dans cette négociation et cette gouvernance globale. Il faut faire des gouvernances dans chaque pays, à l'échelle régionale, la coordination des villes, c'est très important. Vous savez qu'il va y avoir 1000 maires qui vont se réunir à Paris, c'est très important. Et voilà, donc à toutes les échelles, on dit une gouvernance polycentrique et multi-échelle, parce que c'est un problème qui est partout, qui est transversal à toutes les questions. Et comme l'a dit Stéphane, et je m'arrêterai un peu là-dessus, on ne peut pas penser résoudre entièrement le climat simplement dans le silo de la négociation climatique. Il y a beaucoup d'autres choses. Et là aussi, le niveau de conscience de ce point de vue-là aussi, j'ai de l'optimisme, il s'est élevé. C'est-à-dire que, par exemple, les campagnes qui se développent, qui se diffusent sur laisser les énergies fossiles dans le sol, et parce que si on exploite tout ce qu'on connaît déjà comme réserve de pétrole, de gaz, de charbon, eh bien le climat de la planète va exploser. Ça sera 7, 8, 10 degrés. Hein, ça, il suffit de voir les rapports des scientifiques et leurs recherches. Donc déjà, il y en a trop. Donc il n'est pas question d'aller explorer l'Arctique, les côtes en face du Brésil, où on sait qu'il y a sans doute des réserves de pétrole. Mais si on fait ça, en plus de toutes les dégâts écologiques qui sont derrière, eh bien, c'est beaucoup trop. Donc il faut apprendre et discuter de ça, mais collectivement dans les sociétés, à baisser nos consommations d'énergie, faire cette transition énergétique mais majeure, qui est aussi une transition de civilisation. Merci.
Merci, c'est passionnant. On pourrait vous écouter longtemps, mais on savait que ce serait frustrant. Mais en plus, tu as fait une excellente transition avec l'exposé qui va être fait de la part du bourgmestre, que je remercie vraiment pour sa patience et d'avoir pu vous libérer en ces temps troublés. Voilà, on vous écoute.
Oui, voilà, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, la situation est un peu tendue en ce moment dans nos villes. Mais après les brillants exposés qui viennent d'être faits, je vais peut-être nous ramener à quelque chose de plus concret, mais qui n'est pas contradictoire. Je m'inscris totalement dans les exposés qui ont été faits jusqu'ici. Seulement, moi, je vais vous le traduire dans la vie quotidienne et dans les réalités que nous vivons, particulièrement au niveau des villes. D'abord, il faut planter le décor. Quelle est la situation actuelle des villes ? Nous avons une croissance importante de population dans toutes les villes du monde, y compris chez nous en Europe, avec un phénomène qui est celui qui chez nous devient presque naturel. Il n'y a plus de différence entre la ville et la campagne. Nous vivons dans ce qu'on appelle une espèce de conurbanisation, c'est-à-dire que vous ne voyez pratiquement plus de limites à la ville région bruxelloise. Vous êtes immédiatement à Malines, à Anvers. Donc les villes ne forment plus qu'un chez nous, mais parce qu'on est un petit pays, mais si vous voyez même des pays de taille plus importante, la dimension urbaine a tendance à se diluer, évidemment, et à gagner sur les espaces campagnards, sur le vert. Et donc, cette dimension des villes est un élément important à prendre en considération. La croissance est quelque chose de fondamental, parce qu'elle a un impact sur deux choses essentielles qui affectent évidemment le climat, outre l'industrie, évidemment, dont je ne vais pas parler, mais c'est la consommation énergétique des bâtiments en règle générale et la congestion automobile, la consommation énergétique des véhicules. Et nous sommes donc dans des villes qui, aujourd'hui, majoritairement dans le monde, sont congestionnées par des véhicules. Vous citiez tout à l'heure la Chine qui était 9e à l'échelon des performances économiques, qui est devenu le premier aujourd'hui. Mais sur le même laps de temps, on est passé, et ce n'est même pas une caricature, du vélo majoritaire à Pékin aux voitures majoritaires à Pékin. Je ne sais pas si on imagine ce que ça signifie à Pékin, à Shanghai, dans ces mégalopoles de ce monde. Et évidemment, ça a un impact considérable avec des villes qui sont totalement congestionnées, en ce compris dans les pays qui, hier, étaient en voie de développement, aujourd'hui émergents, voire leaders sur le plan du capitalisme mondial. Et donc, cette dimension-là impose évidemment que nous prenions des dispositions au niveau des villes pour changer la donne, parce que c'est au plan concret, chez nous, que ça se passe, et il faut prendre des mesures. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que changer les villes, c'est changer les citoyens. C'est justement œuvrer sur les comportements, ce n'est pas aussi évident à considérer que cela. Et pourquoi ? Parce que d'abord, tous les citoyens ne sont pas égaux. Nous avons évidemment des divergences de niveau de vie, de standard de vie. Nous avons évidemment au cœur des villes une paupérisation aussi importante qui va grandissante en Europe, alors que c'est d'ailleurs le renversement qui est en train de s'opérer. Les villes qui étaient et les régions du monde qui étaient pauvres hier deviennent aujourd'hui plus riches, avec une croissance et une classe moyenne qui devient de plus en plus importante. Aujourd'hui, vous avez en Inde une classe moyenne qui est aussi importante qu'aujourd'hui en Europe. Et l'Europe vit, par contre, une situation de récession et de difficulté, avec une croissance de la pauvreté. Mais donc en ville, c'est le lieu des contradictions économiques, des contradictions sociales. Et donc imposer des comportements aux citoyens, évidemment, sans tenir compte de ces réalités-là, ce n'est pas quelque chose d'aisé à faire dans l'ambition, évidemment, que nous voulons garder de vivre dans des situations démocratiques. Mais il faut bien se dire qu'il faut penser la vie économique des villes, la vie sociale des villes, autrement. Alors se pose la question de la croissance, et la croissance dans les villes. Alors, c'est à la fois une vraie et une fausse question. Daniel Cohen dit, au fond, la question de la croissance, les 30 dernières années, n'intéresse que 10% de la population. 90% de la population aux États-Unis et idem en Europe n'a pas vu fondamentalement son niveau de vie élevé les 30 dernières années. Donc la croissance n'a pas nécessairement bénéficié à 90% de la population. Donc, est-ce que cette question de la croissance intéresse vraiment ? Et n'est-il pas temps aujourd'hui, justement, de contester cette forme de croissance économique qui a été le moteur jusqu'à présent des économies carbone, pour précisément passer à une autre forme de croissance, d'une économie décarbonisée, mais qui maintient malgré tout des enjeux et des ambitions en termes de prospérité, parce qu'une partie de la population a bien sûr besoin de voir son niveau de vie maintenu, voire élevé, pour ceux qui subissent évidemment le plus durement les situations de crise économique et de crise sociale. Ça signifie que la réponse doit également passer par une autre approche de ce que doivent être les services collectifs, c'est-à-dire les services publics dans cette économie. Vous voyez bien que, disant cela, évidemment, on touche à des fondamentaux qui sont alors débattus dans d'autres sphères, on le disait tout à l'heure, l'OMC, mais bien sûr que cette question est au cœur aussi des changements que l'on peut opérer si l'on veut cette dimension de la croissance et du questionnement de la croissance puisse être mise sur la table. Alors comment peut-on agir très concrètement ? Je vais très très concret, éventuellement trivial par rapport à ce qui a été exposé jusqu'ici, mais il faut évidemment à notre échelon rentrer dans du concret. C'est changer les systèmes énergétiques des bâtiments. Alors, c'est aisé pour les bâtiments neufs. Donc, par exemple, nous avons la région a fixé en son temps des critères énergétiques au plus bas niveau pour les bâtiments. Nous avons décidé, par exemple, à la ville de Bruxelles, que tous les nouveaux bâtiments construits devaient être des bâtiments passifs. C'est un choix, évidemment, politique important parce qu'il a une conséquence en termes de coûts d'investissement et d'amortissement pour une ville qui injecte évidemment beaucoup de moyens dans la construction de bâtiments qui servent les services publics, les services collectifs, mais aussi nous avons un patrimoine immobilier locatif fort important et donc là aussi construire et investir, injecter des moyens importants parce que construire passif coûte plus cher, nécessite évidemment un amortissement plus important et donc prévoit des loyers plus chers, évidemment. Donc il faut un arbitrage dans les villes en fonction de nos budgets pour pouvoir faire ça. Mais c'est un choix qui est fait, construire des bâtiments passifs. C'est vrai pour des bâtiments neufs, c'est aisé. Ça n'est pas aussi aisé pour les bâtiments anciens. Et cette question de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments anciens que l'on veut sauvegarder du point de vue patrimonial n'est pas aussi aisé à résoudre, évidemment. Et là, c'est la technique qui, bien sûr, peut nous faire évoluer et nous faire gagner des parts importantes de consommation énergétique. Nous avons, par exemple, décidé, nous, d'investir pour la ville de Bruxelles, je vous illustre ça, dans 16 000 m² de toiture qui doivent produire de l'énergie alternative. Parce que non seulement les villes doivent s'engager à réduire leur consommation énergétique, mais à produire aussi de l'énergie alternative. Il faut travailler évidemment sur les deux paramètres. Deuxième élément important, c'est la question de la mobilité. La mobilité dans nos villes devient extrêmement difficile à gérer. Les voitures jouent à touche-touche dans les tunnels, dans l'ensemble des axes principaux maintenant depuis plusieurs années. Il n'y a plus d'heure de pointe. Nous sommes constamment congestionnés par des véhicules sur les principaux axes. Et donc, il faut agir sur la mobilité. Là aussi, ce sont des investissements gigantesques parce que si l'on veut travailler sur des modes de transport collectif, des modes de transport en commun, il faut évidemment investir. Un kilomètre de métro, c'est... Ça pèse bien entendu dans les budgets des villes ou le budget de la région, mais ce sont évidemment les choix qui doivent être faits, c'est d'investir dans les transports collectifs et réduire l'emprise de la voiture sur le domaine public. Le troisième axe important pour nous, c'est celui de la verdurisation. Alors, ça peut être paradoxal, mais il est nécessaire de produire en ville des espaces verts plus importants. Nous construisons pour l'instant des parcs qui n'existaient pas et la logique étant non seulement d'avoir des espaces verts plus importants du point de vue de l'environnement, c'est fondamental, mais aussi c'est fondamental du point de vue de la qualité de vie des citoyens, de la qualité de vie des habitants. C'est de faire en sorte que justement on change le paradigme des villes qui ont été construites depuis 50, 60 ans au bénéfice de l'industrie automobile, exclusivement, on a cassé des quartiers, on a élargi des voiries, on a fait en sorte que les voitures puissent circuler le plus rapidement possible en ville. On avait une vision donc de la ville qui était utilitaire. Nous devons passer à un modèle de ville à vivre et cela change bien entendu la donne. Et pour cela, il faut produire des espaces en ville qui soient précisément des espaces de vie. Les espaces verts participent bien entendu de cette ambition-là. Enfin, vous avez probablement entendu parler de ce projet à Bruxelles, c'est celui de la piétonnisation. C'est évidemment un choix dur, volontariste, que nous avons pris, qui fait l'objet de moult débats, et nous en sommes très heureux. Mais c'est un choix qui est impératif. Toutes les villes européennes aujourd'hui font des choix identiques. On piétonnise de plus en plus des places publiques. C'est le choix que nous avons fait, en tout cas à la ville de Bruxelles, de marquer d'une empreinte différente les places publiques du centre-ville, de manière à précisément changer l'usage de la ville pour la rendre plus citoyenne et non plus utilitaire, des villes à vivre pour les gens et non plus seulement pour des véhicules. Mais ça fait un débat, évidemment, et une tension. Parce qu'on touche de ce fait à des habitudes ancrées, difficiles à modifier, mais qui nous paraissent impératives. Alors, qu'est-ce que les villes viennent faire dans tout ça ? Effectivement, vous l'avez dit, on s'était rencontrés à Paris dans le même débat. Les villes vont se réunir en marge de la COP21. À l'initiative d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. 1000 villes vont se réunir et tenter de proposer elles aussi des mesures concrètes, des mesures qui vont engager les municipalités, les villes, mais aussi du coup évidemment au plus près les citoyens dans cette transformation qu'il faut opérer. Et les villes vont prendre des engagements un peu sur le modèle des 4 éléments que je viens de vous décrire, donc des éléments sur lesquels nous agissons et nous avons une capacité à agir. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que, vous l'avez entendu, les États sont parfois bloqués à deux niveaux. Dans des querelles institutionnelles, on vient de vous le décrire au plan belge, il y a des querelles entre les régions, le fédéral, on ne sait pas qui va produire l'effort, et il y a une espèce de jeu de bras de fer entre différents niveaux de pouvoir. Et pourquoi ? Parce que, à côté de ces problèmes institutionnels, la majorité des États sont confrontés à des problèmes d'endettement et des problèmes économiques importants et d'impécuniosité de l'État en tant que tel. Or, les villes, par contre, elles sont confrontées aux réalités des citoyens. Nous devons construire des logements, nous devons construire des équipements collectifs, des écoles, des crèches, nous devons régler les problèmes de mobilité, d'immobilité pour l'instant dans nos villes. Donc nous sommes, nous, au niveau des villes, contraints de trouver des solutions, parce qu'il y va de la vie quotidienne de nos citoyens et de la qualité de leur vie. Et donc, ce niveau-là d'intervention ne va pas, évidemment, résoudre les problèmes globaux qui ont été abordés. Et je crois que personne, aucun des maires n'a cette prétention. Mais par contre, nous pouvons donner une impulsion qui est celle d'entités politiques importantes qui touchent de plus en plus de monde en termes de citoyenneté et l'exemple que peuvent produire les villes, parce que beaucoup d'expériences sont menées dans les villes et c'est important, peuvent appuyer sur les politiques d'État de manière à ce qu'on rejoigne des objectifs qui sont ceux qui sont fixés. Alors, c'est quoi ? Ce sont des réseaux de villes durables dans lesquels nous sommes inscrits, des réseaux de villes d'énergie alternative, et tout ça avec la proximité due aux citoyens. Nous pensons que cette approche permettra d'apporter un message positif à côté, soit d'une déception, soit d'un échec ou d'un semi-échec, que serait demain la COP21 à Paris. Merci à vous.
Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Et on pourrait ajouter que les villes ont aussi des plans d'adaptation qui sont importants. New York, Sandy, l'ouragan Sandy a causé, paraît-il, de l'ordre de 100 milliards de dollars dans les environs aussi. Il y a Boston, il y a Londres, il y a Saint-Pétersbourg. Et donc, c'est aussi un niveau pour les plans d'adaptation. Et maintenant, on va aussi remercier de sa patience Madame Evelyne Teubrouck et aussi d'avoir pu se libérer pour remplacer le député européen Philippe Limbers. Ça n'est pas évident nécessairement aussi d'entendre des collègues parler de Bruxelles, du passif, pour lesquelles elle n'est pas totalement étrangère. Et pourtant, elle va réellement nous parler du niveau européen, puisqu'elle est membre du comité du parti Vert européen, tout en étant députée bruxelloise. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Et donc, j'ai la tâche très ingrate de terminer, alors que vous devez être totalement assommé par tout ce que vous avez attendu, même si c'est excessivement intéressant d'entendre justement ces différents points de vue. Donc, c'est vrai qu'on m'a demandé d'intervenir peut-être un peu plus sur l'acteur européen et la place qu'il occupe. J'y suis pas tout à fait étrangère, parce que pendant 10 ans, en ayant été ministre régional, j'ai quand même participé très souvent au Conseil européen de l'environnement, et pendant 10 ans quand même aux nombreux COP où j'ai pu évaluer quelle pouvait être la place de l'Europe et surtout quels pouvaient être les leviers de l'Europe. Aujourd'hui, je suis députée à la région, je suis aussi conseillère communale dans ma commune, et c'est vous dire que si on arrivera à lutter contre les changements climatiques, et je le suis persuadée, ce n'est qu'en faisant agir tous les acteurs, de la commune jusqu'à l'Europe et évidemment l'international. Et je suis assez heureuse d'agir justement à tous ces niveaux-là, parce que ça me permet aussi de faire du lien entre ces différents niveaux de pouvoir. Parce que ce que j'ai pu remarquer, en tout cas pendant ces nombreuses années comme ministre, c'était souvent le cloisonnement dans lequel sont les différents niveaux de pouvoir. Or, si à un moment donné, on ne fait pas le lien entre le local, la région, et j'en passe également, et le fédéral et l'Europe, on n'y arrivera pas. Alors, ce rôle de l'Europe autour de la table. D'abord, l'Europe, sur la question des changements climatiques, a toujours été considérée comme étant très ambitieux. On va dire, c'est peut-être pas très difficile d'être ambitieux quand on avait les États-Unis qui l'étaient pas du tout, quand on a aussi du côté de l'Inde et de la Chine, même si les choses ont évolué, aussi d'énormes freins, mais c'est vrai que l'Europe a toujours été considérée comme étant assez ambitieuse dans les négociations. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ambitieuse peut-être, mais c'est parfois, et ça a été souvent, l'arbre qui cachait la forêt. Parce que faire un consensus, en tout cas autour de la table, et je parle ici plus spécialement, pas tellement du Parlement européen, mais du Conseil européen de l'environnement, eh bien, ça n'a pas été facile. Et donc, on se rend compte très très rapidement, parce qu'en plus, les positions doivent être prises à l'unanimité, que les intérêts particuliers dominent très souvent les intérêts de l'Europe. Et que donc, la Pologne va, à un moment donné, bloquer les négociations, parce qu'effectivement, elle a ses mines de charbon. Qu'à un moment donné, effectivement, des pays du Sud, l'Espagne, la Grèce, pour des raisons également tout à fait légitimes et sociales, vont également bloquer les négociations. Et donc, que c'est, et c'est moins connu, un lent processus. On parlait de ce lent processus, et c'est vrai, même si je peux dire, la première fois que j'étais à une COP, c'était en 2004 à Buenos Aires, je peux quand même, et là, une note d'optimisme, voir qu'en 10 ans, énormément de choses ont quand même avancé. Beaucoup trop lentement par rapport aux enjeux et aux défis, mais malgré tout, il y a eu des choses qui ont changé. Alors, les freins autour de la table européenne, c'est aussi, en tout cas dans le Conseil européen de l'environnement, les freins parce que très souvent, on a limité, vous l'avez très très bien dit, au ministre de l'environnement. Et que souvent, quand ça ne les arrangeait pas, ils se retranchaient derrière soit les ministres du budget et des finances, soit leurs premiers ministres. Et tant qu'on ne fait pas non plus le lien entre tous les ministres, et principalement les ministres aussi du budget, les premiers ministres, les seuls ministres de l'environnement, ne peuvent pas y arriver. Alors, ça dépend aussi des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette pièce. C'est la détermination et la volonté au niveau européen du commissaire qui est en place. Moi, j'ai connu le grec Dimas. Bon, voilà, il n'était pas contre, mais enfin, c'était quand même pas le plus grand défenseur qui soit de position volontariste, qui a été suivi par Connie Hedegaard, la Danoise, qui avait l'avantage d'avoir été ministre de l'Environnement, de comprendre les enjeux, qui avait la capacité de s'imposer au niveau international et à faire du consensus européen. Je pense que Connie Hedegaard a été beaucoup, et on l'a peut-être trop peu souligné, dans les derniers jours de certaines COP. Je me souviens, c'était, je pense, il y a 2 ans, à Doha notamment, entre autres, où très clairement, dans la dernière nuit, c'est effectivement la commissaire européenne qui a permis des consensus. Donc c'est aussi un rôle important. Il y a le rôle aussi du pays qui préside le Conseil européen de l'environnement. Il peut avoir un rôle, même si ses marges de manœuvre sont souvent réduites. Mais il a pu avoir un rôle. Souvenez-vous aussi, Bali, c'était le Portugal. Eh bien, le Portugal est arrivé à avoir vraiment un rôle déterminant à un moment donné, alors que quasiment en fin de nuit de la dernière négociation, c'était un échec total. Cette fois-ci, ce sera le Luxembourg. Et je connais bien la ministre européenne, ministre luxembourgeoise de l'environnement, puisqu'elle est verte. C'est une écologiste. Je lui ai souhaité bon courage, parce que ce ne sera pas facile du tout. Elle est très volontariste, mais on sait qu'il ne suffit pas de ça. Mais donc, la présidence du Conseil peut vraiment avoir aussi une importance importante. Alors, un frein, évidemment, c'est souvent la mobilité des ministres. Ça dépend des élections. Le commissaire reste, mais souvent, au sein des pays, il y a une grande mobilité dans les ministres de l'Environnement. Ça ne fait pas toujours une continuité, ça ne fait pas toujours une cohérence, et ça peut poser des problèmes. Enfin, ici, ce qui compte aussi, c'est les relations bilatérales lors des COP. Ça peut être la France avec les pays francophones, avec les pays africains, l'Espagne avec l'Amérique latine. Ça peut avoir un air un peu colonialiste, mais c'est comme ça. Il y a des relations souvent aussi de confiance entre ces pays-là, et il faut jouer là-dessus. Alors, de COP en COP, il faut savoir que les alliances divergent. Les alliances divergent, et là aussi, l'Europe doit s'imposer pour garder ce leadership, ce qui n'est pas toujours facile. On l'a entendu, il y a pour l'instant un accord entre... Enfin, il y a eu un accord, et en tout cas, il y a eu des rencontres entre Obama et le premier chinois, ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, ce qui est vraiment une avancée. Il ne faut pas que l'Europe perde... je veux dire également son leadership et qu'elle se situe là-dedans. Maintenant, ce sera à Paris. Et on sait bien, évidemment, et depuis au moins 3 ans, que la France joue énormément dans cette COP-ci. Elle joue ses prochaines élections, pas seulement les régionales, mais je crois que M. Hollande joue également énormément dans cette COP-ci. Donc, ils se sont évertués via Nicolas Hulot, via d'autres, à faire des bilatérales. Maintenant, les derniers événements, évidemment, bouleversent énormément de choses. Et il faudra voir ce qui va se passer, évidemment, dans les 3 semaines. L'Europe et les villes. J'ai envie de parler des villes parce que ça a été mon dada pendant des années et ça continue à l'être. Et je peux vous dire, et j'ai entendu Yvan Mayer, et je suis contente que des villes bruxelloises, des villes belges, il y a beaucoup d'autres villes aussi en Belgique, se sont engagées dans les réseaux de villes. Parce qu'en quelques années, ces réseaux de villes ont véritablement pris une importance fondamentale. C'est d'Energy City, c'est ICLEI, c'est encore d'autres réseaux. Ce qu'on voit, c'est que dans certains pays, et je prenais les États-Unis, ce sont les villes qui vont beaucoup plus loin que les États, pour l'instant. Les plans de villes sont souvent beaucoup plus ambitieux. Mais pourquoi ? Parce que souvent aussi, ce sont les villes qui sont aux manettes du quotidien. Ce sont les villes qui peuvent avoir des leviers aussi directs. Quand je parle des villes, je peux parler aussi de certains territoires comme des régions. Mais donc, je pense que ça, c'est une évolution intéressante, tout comme l'évolution aussi des acteurs non étatiques. J'avais fait tout, mais ça, je ne vais pas y venir. C'est sur ce que la résolution qui est passée au Parlement européen au mois d'octobre, qui est tout à fait intéressante, qui a été quand même votée à une assez large majorité. Elle comprend quand même 86 points. Ceux qui sont intéressés peuvent la découvrir, mais je pense qu'elle est assez intéressante dans les objectifs que le Parlement européen a mis dans les exigences, toutes ces exigences évidemment qui vont d'avoir un accord évidemment ambitieux, on l'entendra souvent, un ambitieux obligatoire, mais aussi avoir, et là je veux le pointer parce que c'est vraiment important, mettre en place un système commun de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, des règles uniformes, un système transparent et quantifiable. Et c'est Madame Dehaene, je crois, qui a fort insisté là-dessus. Et je trouve que c'est important pour tout le monde, pour la confiance entre toutes les parties également, du Nord, du Sud, c'est qu'il y ait ce système qui soit vraiment un système transparent et quantifiable. Bien sûr, accroître le soutien financier, je ne vais pas répéter, aux mesures climatiques dans les pays en développement. Ne pas oublier, on ne l'a pas cité ici, mais dans les années qui viennent, ce seront les mesures aussi pour lutter contre les effets des transports aériens et maritimes sur le climat. Ce sont des taxations dont on doit venir. On les a toujours évacuées, on a toujours refusé de le faire. Mais il faudra en tout cas qu'on en parle de ces taxations. Et enfin, le dire aussi, et j'en conclus par là, le climat. Et vous l'avez très bien dit aussi, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des tonnes de CO2. Et je me refuse, et je me suis toujours refusée, à maintenir le climat dans le tiroir de l'environnement ou uniquement de l'énergie. Le climat, aujourd'hui, c'est tout. On parle des réfugiés. Demain, nous le savons, ce sont des réfugiés climatiques que nous aurons. Totalement exponentielle par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et que là aussi, l'Europe peut et doit jouer un rôle, pas seulement pour avancer des chiffres, mais aussi pour porter une autre vision. Une vision qui soit une vision beaucoup plus globale. Une vision où on ne peut pas isoler la lutte contre les changements climatiques d'autres combats. Et certains ici auront lu, évidemment, le livre de Naomi Klein sur « Tout peut changer ». Mais donc, pour moi, je pense que la crise climatique aujourd'hui, elle peut être une opportunité. Elle peut être une opportunité aussi pour repenser totalement les économies locales, les rapports entre les démocraties et le privé, empêcher des accords de libre-échange néfastes. Il faut rapprocher, il faut parler climat, le TTIP, tous ces traités. Tout cela est lié. Nous devons aussi parler d'investir dans des infrastructures publiques, se réapproprier absolument les services publics, les questions de l'eau, les questions de l'énergie, lutter contre la privatisation de ces biens publics. Ce sont toutes des mesures de lutte également contre les inégalités sociales. Et aujourd'hui, alors à un moment où on vit des moments très difficiles, eh bien aussi, les questions sont liées. Parce que sont sur la table aujourd'hui, dans les questions des attentats, l'achat et les ventes de pétrole. Ce sont les ventes d'armes, ce sont les trafics de stupéfiants. Et donc, je suis persuadée que nos luttes environnementales et de climat réinterrogent également nos économies et que, comme vous le disiez, la transition énergétique, c'est aussi une transition de civilisation. J'ai fait au plus vite. Voilà, je vous remercie.
Se clôture la seconde partie de l'enregistrement. À quelques jours de la plus grande conférence internationale jamais organisée, ces échanges sont à l'image de l'attente très forte que suscite la COP21. Elle fait l'objet d'une attention politique et médiatique importante et nécessite une prise de conscience universelle. L'approche de cette 21e conférence a changé au niveau mondial, national, mais aussi plus local. Les intervenants soulèvent notamment l'importance de l'implication des villes, comme Bruxelles, qui sont aujourd'hui, elles aussi, aux manettes du quotidien.